management sur la réalité économique et en quoi on peut lier la question d'un management bienveillant qui est plus tourné vers la personne avec aussi une question de rentabilité. Donc c'est de ça dont on va parler ce soir sur la question du management bienveillant. Juste pour une introduction, c'est important de prendre conscience qu'en France, des études ont été faites, 3 travailleurs sur 10 disent souffrir de stress au travail. Et quand on diminue le niveau de stress, on augmente le niveau cognitif, mais beaucoup ont appelé justement face à cette conclusion et face aussi au fait qu'il y a une autre étude qui dit que 9% des employés se disent engagés dans leur travail, 65% se disent ne pas l'être et 26% disent d'être totalement désengagés de leur travail. Ceux qui ont appliqué le management bienveillant ont connu aussi une implication plus grande. Et l'Institut de veille sanitaire aussi rappelle que 500 000 collaborateurs en France sont en détresse psychique au travail, dont 30 000 en burn-out. Et on voit qu'il y a une loi en 2016 qui a été établie sur la responsabilité sociale des entreprises et qu'en 2016, peut-être plus en 2010 et en 2016, une mission parlementaire sur le syndrome d'épuisement professionnel. Donc on voit que cette question et ça vient en grande partie de la manière de gérer les personnes. L'épuisement professionnel ne vient pas tant de la quantité de travail à fournir que de la manière de s'adresser aux gens et de les traiter. Et en particulier le burn-out, en particulier je pense par exemple à une femme qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est Marie-France Irigoyenne, qui en 1998 a fait un livre sur le harcèlement professionnel, et il a fallu un an et demi simplement pour qu'ensuite ça se transforme en loi. Ça veut dire que c'était présent déjà dans les différentes couches sociales de la société, cette question d'épuisement et de harcèlement au travail, et c'était quelque chose de présent à tel point que, entre la sortie d'un livre et la sortie d'une loi, il a fallu un an et demi. Ça veut dire que dans notre manière peut-être de fonctionner, particulièrement en France, je trouve que c'est assez différent du management anglo-saxon. Alors peut-être certains ont travaillé aux États-Unis, en Angleterre. Ce qu'on appelle le management bienveillant, c'est ce qu'on appelle aussi le care, en anglais, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, qui est une manière peut-être différente, moins stressante, je trouve, de voir les choses. Et d'autant plus c'est important que votre génération, contrairement à la mienne, j'ai 58 ans, n'est pas prête à se sacrifier sur l'autel du travail et de l'entreprise. Ça, c'est tout à fait clair. Je trouve que, et même, je dirais plus loin, parmi les critères de choix de votre travail, rentre en compte la qualité du manager. Ça rentre dans vos critères de choix. Parce que vous dites, si cette personne-là est capable de me comprendre, d'où l'importance des débuts et de l'entretien d'embauche et de voir qui on a en face de soi, etc., on y reviendra dans le management bienveillant, ça fait partie des signes avant-coureurs de la manière de manager. Eh bien, du coup, vous direz, tiens oui, je peux travailler avec un tel, mais avec telle personne, je ne peux pas travailler. Il est des structures de travail qui sont nocives, délétères, très clairement, qui détruisent les personnes. Alors on connaît les grands cas, comme à Orange par exemple, comme à Renault, où il y a eu des quantités de suicides assez impressionnantes, de dépression, de personnes qui, dans les milieux de cadre, mais ça peut exister à tout échelon de l'entreprise et dans le milieu professionnel, que ce soit employé, que ce soit des techniciens, contremaîtres, sachant qu'on verra après, cette question du management tourné vers la personne, c'est vraiment une décision d'entreprise et singulièrement une exemplarité de ceux qui sont à la tête. Et aujourd'hui, votre génération, de ce point de vue-là, est différente de la mienne. Nous, on bossait, on ne se posait pas de questions. Bon, il fallait y aller. Vous vous posez plus de questions et vous êtes prêt même, c'est-à-dire parmi les critères de choix pour un travail, le critère financier n'est pas le seul et peut-être même pas le premier. C'est un des critères, oui, parce que vous avez fait des études, parce que vous êtes habitué à un certain confort de vie, Je veux bien le comprendre. Mais il y a d'autres critères de choix qui rentrent en compte. Imaginons demain, vous vous mettez dans une étape de réorientation professionnelle et de changement professionnel. Il y a d'autres critères qui rentreront en compte que ce critère de la rémunération du salaire. Ce sera un des critères, mais pas forcément le premier. Ce qui rentrera en compte, ce sera beaucoup le sens que vous donnerez à votre travail et qu'on vous proposera. Et puis deuxièmement, c'est la qualité de relation que vous avez avec ceux qui sont au-dessus de vous, et puis aussi ceux qui sont, si vous êtes peut-être certains ont plus de 30 ans, etc., sont déjà dans le management, donc du coup ça s'adresse à eux comme manager, voilà, qui sont en responsabilité. Donc je trouve qu'on peut faire... Et puis sachant que quand on a un pouvoir, comme c'est le cas de la personne qui est en responsabilité, on peut faire beaucoup de bien, on peut faire beaucoup de mal, mais on peut faire beaucoup de bien aussi. Et je crois, moi j'ai un regard positif, pas naïf. Moi, 58 ans, puis j'ai beaucoup de 30 ans de vie religieuse, j'ai cette expérience professionnelle avant, etc. Mais j'ai déjà vu un certain nombre de choses. Mais du coup, je me dis que il y a un vrai bien à faire dans le milieu de l'entreprise si on se donne les moyens et ne prétextons pas la crise, la fameuse crise, pour justement dire non, il faut aller du côté de l'autre forme de management qui serait le management par le stress, de mettre la pression. Vous voyez, c'est les deux, une forme qui est plus tournée vers la personne, tout en tenant compte des... C'est là, c'est « et », je vais dire le fameux « en même temps hein, », voilà, mais c'est à la fois tenir l'engagement financier de rentabilité, mais cet engagement financier, il passera aussi par le fait que les salariés sont heureux. Moi, je me questionne toujours des... Comme dans notre communauté, on a contact avec des fournisseurs, des prestataires de services, etc. Quand je vois qu'il y a un turnover et que c'est à chaque fois un commercial différent qui vient nous voir, c'est à chaque fois une personne, je pense à notre cabinet comptable, etc., qui vient nous voir, ça tourne, il ne reste pas plus d'un an, je me dis, mais comment est-ce qu'on les traite là? Qu'est-ce qui fait que... Et ça, ça a un coût. Et ça, ça a un coût. Je veux dire, une direction humaine des ressources est urgente pour un temps de crise, justement, parce que une personne qui se met en arrêt maladie parce qu'elle se sent, à tort ou à raison, là aussi il faut parfois discerner, elle se sent stressée, elle se sent harcelée, le turnover, les burn-out, la mauvaise réputation de certaines entreprises concernant justement le traitement des collaborateurs, tout ça fait que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Et donc je pense que c'est important de comprendre, d'allier les deux, et de plus on est tourné vers la personne, plus l'entreprise, quelque part, poursuivra son but. Aujourd'hui, on juge une entreprise pas seulement à ce qu'elle a, mais aussi ce qu'elle est et ce qu'elle véhicule. Qu'est-ce qu'elle véhicule? Vous voyez, par exemple, dans l'éducation nationale, ce n'est pas une entreprise, c'est la fonction publique. Il y a beaucoup de difficultés à trouver des professeurs. Parce qu'aujourd'hui, les professeurs ont le sentiment, et ce n'est pas forcément faux, de ne pas faire simplement de l'instruction, mais ils font de l'éducation. De fait, ça a changé entre le ministère de l'instruction publique au XIXe siècle et l'éducation nationale après l'après-guerre. Hein, et donc, du coup, certains disent, on voit combien d'épuisements de profs qui sont obligés de faire la police, obligés de rappeler les fondamentaux, le respect des autres, etc. Ils disent non, moi, ça c'est... Et qui n'en peuvent plus. Hein, et à juste titre, parce que c'est... Et du coup, il y a une carence... à tel point qu'ils ont ouvert le recrutement à d'autres personnes, etc., parce qu'ils n'arrivaient pas, avec les compétences qui s'étaient fixées, avec le CAPES, à trouver le personnel. Pour la mauvaise image que renvoie l'institution. Et on ne peut qu'en s'en attrister, surtout pour ce qui concerne les enfants et l'éducation. Hein, mais vous voyez, par exemple, ça se retourne contre l'entreprise ou l'institution quand elle-même est maltraitante ou... Voilà, on met le personnel dans des situations de maltraitance ou en tout cas de stress. Voilà. Donc je me suis dit ça peut être intéressant de réfléchir sur ce management bienveillant. Plusieurs parties. Premièrement, qu'est-ce que c'est? plusieurs points, si vous voulez prendre des notes, ça, c'est possible. C'est aussi enregistré. Donc vous pourrez éventuellement le réécouter sur le site de notre communauté, donc serviteur.org, si vous souhaitez, ou le passer à d'autres personnes. Premièrement, qu'est-ce que c'est ? Il y a plusieurs points que je veux aborder. S'implique une relation vraie. S'implique une relation vraie, c'est-à-dire pas tant se retrancher derrière son quant à soi, sa position hiérarchique. Je suis le chef, ou l'opacité d'une organisation, mais au contraire, aller dans la qualité de la relation avec l'autre. D'ailleurs, les sociétés où il fait bon vivre choisissent l'autonomie et la créativité afin de faire émerger le meilleur du potentiel du salarié. Voilà. Donc c'est d'abord une relation vraie. Une relation vraie, ça veut dire être capable aussi de dire ce qui fâche. Et c'est là, parce que dans le titre, c'était assez bien trouvé, vérité ou manipulation, je trouve que ce n'est pas un management bienveillant que celui qui ne dit pas là où le bât blesse. Mais ce n'est pas un management bienveillant qui souligne toujours le négatif, le point noir dans la page blanche. Ah ben écoute, ce que tu as fait, c'est très bien, mais voilà. C'est-à-dire, ce qui avant mai n'existe pas, comme vous le savez, ceux qui ont vu Game of Thrones ont cette culture. Et donc, du coup, voilà. Mais, voilà, se dire que quoi, il y a toujours un mais. Il n'y a jamais une vraie félicitation, un véritable encouragement. Oui, il y a ce côté un peu négatif. Hein, donc, ensuite, autre point, l'importance des débuts. Quand vous prenez un poste, posez-vous la question, qui était avant vous et pourquoi ce poste est vacant ? Bon, si c'est une création de poste, c'est autre chose. Mais qu'est-ce qui fait que la personne est partie ? Qu'est-ce qui a pu faire que cette personne... Et l'arrivée d'un nouveau collaborateur, savoir l'accueillir, l'intégrer, accompagner ses premiers pas dans l'entreprise. Déjà, vous allez sentir dans les entretiens d'embauche, déjà vous ressentez quel style d'entreprise c'est. Si vous êtes un peu attentif et vous demandez au Saint-Esprit, puisque voilà, aussi de vous aider, et si vous vous centrez sur ce que vous ressentez intérieurement et vous vous faites confiance, vous verrez un peu le style d'entreprise que voilà. Donc, et si vous vous sentez en confiance aussi, là aussi c'est tellement intime et lié à la personne. En confiance avec celui ou celle dont vous allez être le collaborateur. Autre point, c'est allier le marketing et l'éthique. Et je pense que la bienveillance dans les relations, ce n'est pas simplement un idéal ou une forme d'un idéal, quelque chose qui n'irait pas dans le sens d'un profond réalisme. De dire que l'entreprise, oui, elle a un aspect marketing pour gagner de l'argent, mais elle est aussi une entreprise citoyenne qui a vocation à servir la société. Et comment est-ce qu'elle sert la société ? D'abord, en servant les collaborateurs qui sont en son sein. Vous voyez, c'est cette culture d'entreprise qui fait que ça donne un sens aussi au travail. Ça fait que je vais avec joie au travail, non pas la boule au ventre. Je me rappelle, pendant tout un temps, j'avais la boule au ventre au travail parce que c'était trop de pression. Je n'étais peut-être pas assez compétent, c'est possible, hein, mais trop de pression. Et donc, du coup, ça fait que ça fait une chose, là aussi, c'est intéressant, dans mon témoignage, le travail a joué un grand rôle, et entre autres, les excès au niveau professionnel, et entre autres, les excès quant au management par la pression, hein, qui fait que je n'ai pas trouvé dans le monde professionnel une unité intérieure. Alors, que j'ai trouvé par ailleurs, évidemment, dans la vie religieuse, je vous dirais que ce n'est pas le seul critère, mais c'était pour moi un critère qui a compté. Donc il y a l'entreprise marketing et il y a l'entreprise citoyenne. Et le deal, c'est, et peut-être plus à votre génération qu'à la mienne, c'est d'unifier les deux. Que les deux, il y a une culture d'entreprise, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une naïveté, mais d'intégrer ces deux visions, d'à la fois de servir la personne, et mieux on sert les collaborateurs, plus ils sont heureux, plus potentiellement ils peuvent aussi servir l'entreprise. Je pense que c'est du gagnant-gagnant. Donc, autre point, une attitude pédagogique. Ça veut dire avoir le désir, un management bienveillant, c'est avoir le désir de faire avancer les autres. Et donc de dire, bon, même si ça ne fait pas plaisir, ce qui peut être difficile à vivre, hein, d'aider à comprendre les échecs, hein, d'accepter l'erreur. Est-ce qu'on vous accepte les erreurs dans votre job? C'est intéressant. Vous vous rappelez la phrase de Ford, hein, le constructeur automobile, qui dit « J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais jamais deux fois la même. » Voilà. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur là où vous travaillez? Parce que ça fait partie de la réalité humaine. Hein. Et puis, pédagogue, dans le sens de « Qu'est-ce que je tire de mes succès? Qu'est-ce que je tire de mes échecs ?» Et donc, ça a un rôle plus motivateur, orientant les collaborateurs vers une dynamique. Hein, voilà. Et cette attitude de pédagogie fait que, progressivement, dans l'entreprise, on voit qu'on a des intérêts convergents. Parce qu'il s'agit quand même d'intérêts. Hein, on n'est pas dans une gratuité. Hein, on a des intérêts convergents. L'intérêt de l'entreprise converge aussi avec mon propre développement. Et quand ça matche les deux, et quand vous arrivez à trouver les deux qui collent, vous avez gagné le gros lot, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, pour le moment, trop rare, hein, d'associer le destin personnel avec un destin collectif. Un autre point qui est intéressant dans le management par la confiance et par la bienveillance, hein, bienveillance c'est vouloir le bien, c'est ça, c'est la priorité à la proximité, hein, beaucoup plus impliquant l'humain davantage. Et c'est vrai que l'entreprise qui veille sur ses collaborateurs et qui est sensible aussi à la dimension privée, alors, de la vie privée, sachant que, alors c'est une question qui n'est pas facile, à quel point il faut se livrer sur sa vie privée dans son travail. Bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais ça pourrait en faire partie. Même si je constate que les barrières entre vie professionnelle et vie personnelle sont de plus en plus poreuses, et dans les deux sens, de la vie professionnelle qui envahit la vie personnelle, mais aussi de la vie personnelle qui envahit les temps de travail. Et entre autres, c'est dû grâce ou à cause des nouvelles technologies. Bon, j'ai vu ce matin, il y avait par exemple 183 inscrits sur Facebook à la conférence là, de ce soir, et je reviens sur Facebook par 200 et quelques. Je me dis, tiens, 220. Je me dis, tiens, ils ont été 40 à poser un jour de congé pour pouvoir liker la conférence et l'événement. Certainement pas. Donc, qui d'entre vous n'a pas réservé un billet de train pendant ses horaires de travail? Mais je pense que c'est de plus en plus. Mais qui d'entre vous aussi n'a pas répondu à un mail professionnel à l'intérieur d'un temps de vacances? Mais en tout cas, le management bienveillant, d'une manière ou d'une autre, fait comprendre qu'en face de soi, on n'a pas qu'un outil de production à travers le salarié. On a d'abord une personne qui a aussi une vie. Alors, c'est là où il faut être attentif, de ne pas tomber soit dans un paternalisme, voilà, qui voudrait cocooner, et puis un peu, voilà, diriger. Et c'est là où la manipulation, elle peut être au rendez-vous. Hein, on ne demande pas d'être le copain, d'être son manager. Mais il y a un discernement sur ce que vous pouvez dire et ce que vous ne pouvez pas dire au plan professionnel de votre vie personnelle. Je trouve ça, en tout cas, les deux sont de plus en plus liés, encore une fois. La séparation entre les deux, c'est pas étanche. C'est de plus en plus poreux. Ça veut dire qu'il faut de plus en plus de discernement. Ensuite, un autre point, c'est, sur ce management bienveillant, c'est le choix d'une organisation. Et ça, c'est important, ça, de rappeler. C'est vraiment... C'est, Alors vous pouvez vous-même, à titre personnel, de dire, bon, je suis là où je suis, et je ne sais pas, je suis infirmière, j'essaie d'être bienveillante avec les patients, etc., ou j'ai une responsabilité quelconque, je vais essayer autour de moi. Bon. Mais si ce n'est pas une décision qui vient d'en haut, et qui est affichée comme telle, et qui est dite et exprimée comme telle que nous nous orientons vers un management par la bienveillance, et nous formons les personnes dans ce sens, eh bien vous risquez de vous épuiser. Vous risquez de vous épuiser à vouloir, avec vos petits points et plein d'idéalisme, changer la société, changer le monde, etc. Parce que vous vous n'êtes pas porté par une organisation. Et on voit qu'il y a une existence, en travaillant le sujet, parce que je connaissais pas, c'est une commande, pour tout vous dire, une commande du bureau de SPNSP qui m'a demandé de travailler ça. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des labels, par exemple, Happy at Work. Happy at Work, bon. Il y a un label, je ne sais pas si votre entreprise a le label Happy at Work. Bon, je ne sais pas si même l'Église a le label Happy at Work. Je veux dire, c'est intéressant de travailler dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est beaucoup plus facile. Mais je pense qu'il y a plus de combats à être au service en tant que professionnel dans l'Église que beaucoup le pensent. Parce qu'on dit, bah non, mais voilà, je vais être dans une ONG ou dans une association catholique ou dans l'enseignement catholique, ou etc., etc. Mais aussi pas mal de combats, plus qu'on ne le pense. Parfois, il y a une certaine désillusion de certains, parce que voilà. Mais donc, on sent que c'est le choix d'une... Et puis, il commence donc ces labels... ou alors un autre label qui est « Great Places to Work ». Voilà. C'est les deux labels. Et il y a même des postes, j'ai vu ça, ça m'a fait marrer. J'ai des postes « Chief Happiness Officer ». Si vous êtes le « Chief Happiness Officer », donc vous êtes chargé du happiness dans l'entreprise. Mais bon, c'est marrant, hein, ça n'existait pas quand je travaillais, ça. Alors, est-ce que c'est des gadgets ou pas? C'est toute la question. Ou est-ce que c'est un vrai... Parce que ça peut être du gadget. On peut faire du carewashing, comme on fait du greenwashing. Hein, on fait du greenwashing, etc., on recycle, etc., etc., puis finalement, on puise dans les ressources... les ressources de la planète, plus que raison, etc. Mais par ailleurs, on veut se faire pardonner. Bon, alors, Total soutient beaucoup d'associations écologistes, voilà, pour se faire pardonner de puiser le pétrole. Voilà, bon, très bien, mais est-ce que c'est vraiment une... Et c'est là, parfois, où le bât blesse, c'est qu'il y a des petits instruments comme ça qui sont mis en place, comme des postes ou la journée de la gentillesse, etc. On se dit, les jours, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ça m'a toujours surpris, c'est la journée de la gentillesse. Et donc, du coup, est-ce que c'est cosmétique ou est-ce que c'est vraiment une démarche d'entreprise? Si ce n'est pas une démarche d'entreprise, ça ne marchera pas. Si ce n'est pas une démarche de l'institution, de l'établissement où vous êtes, de votre... Et qui dit du service, parce que ce n'est pas forcément toute l'institution. Je pense que si vous travaillez dans les hôpitaux de Paris, bon, ce n'est pas la PHP. Parfois, c'est un institut qui dit, voilà, un service qui déclare que, bon, ceci, cela, quoi. Hein, mais on voit des suicides dans des gens qui travaillent dans les milieux médicaux, par exemple. Pas à part excès de... par harcèlement ou critique, etc. Donc ça, je pense que... voilà, c'est quelque chose qui est intéressant. L'exemplarité, autre point, l'exemplarité comme condition. C'est-à-dire, si on décide, et si l'entreprise, dans son management le plus élevé, décide de mettre ça en place, ça veut dire une exemplarité. Ça veut dire aussi, moi j'y crois, la capacité de demander pardon. Le manager a aussi le droit à l'erreur. Il a aussi le droit à l'erreur. Celui qui est en responsabilité, vous avez le droit, mais lui aussi a le droit à l'erreur. Et je trouve qu'on ne valorise pas suffisamment dans le monde de l'entreprise, dans le monde professionnel, cette capacité de demander pardon, qui pourtant viendrait apaiser beaucoup de choses. Ce n'est pas la solution miracle, mais je sais pas, quelqu'un qui s'est emporté, qui a dit des mots qui ont dépassé sa pensée, qui a, voilà, ça peut arriver, on est exaspéré sur ça. Moi, ça m'arrive, ça vous arrive, etc. Voilà. Est-ce qu'ensuite je me ressaisis et je suis capable d'un retour sur moi-même, et là, au plan spirituel, hein, ce retour sur moi-même, c'est ce qu'on appelle la conversion, au fond, hein, c'est pour nous chrétiens, c'est rentrer en soi-même, hein, comme le fils prodigue qui rentre en lui-même et qui fait mémoire de tout ce qu'il a dans la maison du père, etc. Est-ce que je suis capable de me rentrer en moi-même et de dire, voilà, oui, j'ai eu des... Je m'approche de l'autre que j'ai pu blesser. Donc l'exemplarité, hein, c'est vrai que comme condition absolument sine qua non, hein, pour que ça fonctionne, le management bienveillant doit devenir une valeur et être incarné par l'ensemble de l'organisation. C'est ce qu'on peut en tout cas souhaiter. Un autre point qui est assez intéressant, justement, pour faire le lien avec rentabilité, parce que bien souvent, on oppose les choses, où vous aurez en face de vous des personnes qui diront « mais ça, c'est pas rentable. Le seul truc rentable, c'est de mettre la pression. » Je trouvais assez intéressant le témoignage du patron de Schneider, qui est une grosse boîte, qui évoquait en 2010 « la santé des salariés est une source incontestable d'efficacité des salariés. » Ça, c'est juste une évidence. L'objectif du management bienveillant reste avant tout la productivité et in fine la rentabilité. Plus un collaborateur sera confortable dans une entreprise, plus il sera engagé. Cet management bienveillant est un outil pour éviter l'absentéisme, les arrêts maladie, les dépressions qui alourdissent les bilans sociaux, donnent une mauvaise image à l'extérieur, dans les médias, les concurrents, les clients, les fournisseurs, ils donnent une mauvaise image de l'entreprise. Donc, je trouve ça intéressant d'un homme qui a cette responsabilité, patron de Schneider, c'est pas rien, et qui dit, voilà, il fait ce constat-là. Alors, est-ce qu'ils sont passés ensuite à d'autres choses, j'en sais trop rien, mais est-ce qu'ils ont mis en place ça dans leur entreprise? Un autre point qui est assez intéressant, c'est que le management bienveillant rentre dans ce qu'on appelle le slow management, le management lent. Derrière ça, il y a un rapport au temps. Quel est le rapport au temps dans mon lieu de travail? Et grande partie du stress vient d'un rapport au temps qui n'est pas équilibré. Et le stress lui-même vient d'un rapport au temps qui n'est pas équilibré. Et les burn-out viennent souvent, burn-out, hein, vous connaissez l'expression, ça vient de l'industrie spatiale, hein, quand les réservoirs d'hydrogène à côté des fusées s'épuisent, elles sont burn-out, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus rien. J'ai écouté le témoignage d'une femme qui était tellement sous pression... Qu'à un moment donné, elle a voulu se lever de son lit, elle n'y est même pas arrivée. Plus de batterie, plus rien. Il n'y a plus rien. Son mari a dû la porter dans la salle de bain pour lui faire prendre un bain, etc., pour la ragaillardier. Il n'y avait plus de batterie. Il y a des gens, vous savez, on n'a pas une capacité inépuisable d'énergie en nous. Donc, c'est un slow management, je trouve ça intéressant, et ça s'inscrit, j'ai découvert ça en travaillant le thème, ça s'inscrit dans un courant de pensée verte, c'est aussi lié à ça, c'est lié à une certaine pensée de l'écologie, d'un respect, nous avons aussi en nous-mêmes un écosystème, nous sommes à nous-mêmes un écosystème. Autre point qui est intéressant, c'est le sens du travail. Je l'ai un petit peu évoqué au début de notre rencontre. Le sens du travail. Alors que cette créativité augmente dans des environnements de travail où chacun peut aller à son rythme, est autorisé à perdre du temps à rêver, faisant ainsi la lutte taylorienne contre de la lutte taylorienne contre la flânerie systématique, un combat non seulement d'arrière-garde, mais aussi non productif. Est-ce que dans mon lieu de travail, du coup, par exemple, Google a fixé des temps, des jours déclarés sans mail, sans portable, sans téléphone portable. Alors je ne sais pas comment ils vivent, les salariés vivent là-dedans, mais tout le monde se précipite pour y travailler, semble-t-il. Ou alors le lieu même, l'aménagement même des bureaux, qui est une salle de repos, qui est une salle, etc. Tout ça, ça fait que ça dit quelque chose de la manière dont vous allez pouvoir développer votre... Et surtout de redonner un sens. Quand vous avez simplement une pression sur vous, c'est très difficile de découvrir un sens. Parce que vous perdez... Il y a quelque chose qui vous a touché dans ce travail. Vous vous êtes formé pour ça, souvent durant plusieurs années. Mais si vous ne trouvez plus le pourquoi, vous êtes de moins en moins à même à accepter la pression. De moins en moins. Jusqu'à un moment donné, de plus du tout l'accepter et d'aller chercher ailleurs. Éviter les 3 S. Autre point, on est encore toujours, qu'est-ce que le management bienveillant? Éviter les 3 S. S, c'est stress, souffrance, suicide. Ben oui, malheureusement, il y a des suicides au travail. Et c'est pas, oui, c'est pas, oui, alors je ne vous le souhaite pas, évidemment, mais ni de le vivre dans votre ambiance professionnelle, mais vous avez eu, on se rappelle de tout ce qui s'est passé chez Orange et chez Renault, mais ce n'est peut-être pas les seules entreprises où il y a eu une telle pression que la personne a voulu mettre fin à ses jours dans son lieu de travail, pour aussi envoyer un message à la direction. Peut-être c'est pas peut-être le dernier message, mais ce sera, oui, certainement le dernier, oui. Donc, le management bienveillant, c'est constitue indéniablement une réponse justement pour éviter ces 3 S, hein, pour un puissant levier de la promotion du bien-être au travail. Passer du management des ressources humaines à un management humain des ressources. Le management humain des ressources est devenu, dans nos sociétés de performance, une réelle exigence. Encourager, reconnaître, reconnaître l'autre, avoir des objectifs atteignables. Un autre point aussi que j'ai vu, le management de bienveillance n'est pas une amitié avec le manager. Ce n'est pas qu'on soit amené à devenir ami. Et c'est là aussi que c'est un des critères pour dire que de franchir un critère d'équilibre aussi entre le professionnel et le personnel. Ce n'est pas rentrer dans une relation amicale avec le salarié. Non, c'est simplement bien se comporter, comme dans tout rapport humain. La bienveillance n'est d'ailleurs pas au sens unique. Le salarié lui-même est acteur de la bonne relation avec son manager. C'est un double sens pour que ça marche. Donc voilà un peu la définition, certains points de définition du management bienveillant. Deuxième partie, les 6 bonnes pratiques du manager bienveillant. Alors, je vous les liste rapidement. Pratiquer l'écoute active et l'empathie, c'est-à-dire que le manager essaie de comprendre ce que vit le salarié et son collaborateur. Avoir confiance et se remettre en question, deuxième point. Responsabiliser les équipes et les autonomiser, c'est ce qu'on appelle dans la doctrine sociale de l'Église le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que à chaque étage de la hiérarchie, chaque étage de la hiérarchie va faire tout son travail, mais un étage supérieur ne va pas prendre le travail de l'étage inférieur parce que du coup il empêche à cette personne-là d'exercer sa mission. Et si votre supérieur fait votre travail, c'est pas un management bienveillant, c'est un manque d'autonomie. Et donc c'est responsabiliser ses équipes et les autonomiser. Quatrièmement, valoriser, féliciter, célébrer. Voilà. Célébrer aussi les réussites. C'est dire à ses pairs, P-A-I-R-S, que le travail produit est bon, que le comportement a été à la hauteur, que les chiffres réalisés sont ceux attendus. 5, avoir le droit à l'erreur, je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir dessus. 6, avoir juste une politesse dans le discours et les gestes. Sachant que, rappelez-vous, que dans les gestes, le langage non-verbal est 90% de notre langage. Si vous voyez un manager qui vous félicite, mais en même temps qui lève les yeux au ciel, ce qu'on appelle double bind, c'est double, double, vous êtes compris entre deux trucs. En fait, je vous félicite, mais en même temps, son corps vous dit l'inverse, quoi. Mais évidemment, ça peut être aussi une manière de manipuler les autres, etc. Troisième partie, les conditions du management bienveillant. Je trouve ça intéressant de pouvoir les dire, les rappeler. Trois conditions. Ça fait un peu redire parfois avec un mouvement qui doit venir d'en haut. Deuxième condition, hein, et en particulier en temps de crise, c'est un mouvement qui doit venir d'en haut. La crise est d'abord une crise peut-être du management, avant d'être une crise économique. Et ça, on n'en parle peut-être pas assez. Ça coûte très cher de ne pas avoir des collaborateurs impliqués. Donc, une démarche tournée vers la personne, dans le sens du care, de prendre soin d'eux, et une démarche qui aide à la personne à intégrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Je pense particulièrement aux mères de famille. Alors, je pense que ça concerne peu d'entre vous. Mais c'est vrai, je m'interroge beaucoup sur la capacité des entreprises à accueillir les femmes et à accueillir les femmes dans leur maternité. Parce qu'accueillir, et non pas de vouloir que la femme soit un homme comme un autre. Et ça me paraît... Est-ce que c'est aussi un signal est-ce que les femmes sont respectées parce que le respect des femmes, et si j'allais dire l'entreprise est baby-friendly, du coup ça veut dire que il y a d'autres choses derrière qui vont faire qu'on va être aussi respecté. Mais si en revanche, si à 7h du soir tu pars et on te dit bon après-midi, c'est compliqué, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un manque de respect, ça. Vous voyez ? Et si on colle souvent des réunions après 18h, etc., forcément, les femmes, elles ne vont pas pouvoir assurer, ou alors elles s'interdiront, à un moment donné, elles décrocheront, etc. Du coup, c'est intéressant de voir la place faite aux femmes, comme aussi cette capacité de respecter la personne dans ce qui est le très intime, comme la maternité. Bon, la paternité, mais singulièrement la maternité. Donc... est-ce que l'entreprise vous accepterait alors que vous emploierez alors que vous êtes à votre 7e mois de grossesse? Ça pourrait être intéressant de faire. Faites pas le test tout de suite. Mais bon, est-ce qu'il y a une vision qui va plus loin que le court-termisme? Ah ben elle va me coller un arrêt mat, un congé mat, etc. Mais non, je vois la personne, c'est la bonne personne qu'il faut pour ce beau job. Et puis dans 6 mois, je veux pas la perdre, quoi. Parce que je vois que c'est un beau potentiel. C'est bien souvent des visions court terme qui empêchent un management bienveillant. Donc voilà, les trois attitudes, hein, donc venir d'en haut, tourner vers la personne, comprendre que l'unité de la personne dans sa démarche, dans son attitude personnelle et professionnelle, hein, essayer d'équilibrer les choses. Les questions que je me pose, moi, quand j'ai travaillé ce sujet, que je n'avais jamais travaillé, les questions que je me pose concernant le management bienveillant, à aucun moment, dans ce que j'ai pu lire, je n'ai pas tout lu, mais dans ce que j'ai pu lire, à aucun moment, on a parlé de l'actionnariat bienveillant. Parce que, bien souvent, dans les entreprises, en tout cas, c'est les actionnaires qui, par leur excès de demande de rentabilité, engendrent le stress et qui ensuite, il y a un ruissellement qui fait que ça aboutit jusqu'au dernier collaborateur embauché. Oui, et ça, on n'en a pas parlé. Et parce que derrière ça, je pense qu'il faut aller plus loin d'un actionnariat bienveillant, c'est-à-dire des personnes qui ont aussi... Et c'est là où la pensée sociale de l'Église est tellement précieuse, d'orienter. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et donc, ça veut dire aussi un rapport à l'argent. Et ça, je ne l'ai pas vu traiter dans le... Une chose que je n'ai pas vu traiter aussi, alors ça l'est peut-être, vous l'avez, c'est que ce n'est pas spontané d'être bienveillant. Je ne suis pas spontanément bienveillant. Et à aucun moment donné, j'ai vu parler d'un travail sur soi-même. Il y a des personnes qui, si elles ne sont pas dans le contrôle, parce que c'est des personnes anxieuses, c'est des personnes qui doivent être dans le contrôle, rien ne doit leur échapper, tu fais quoi à tel moment, tac, 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 tout le monde souffre, parce que il y a la question, mais c'est plutôt des questions personnelles. Alors vous me direz, bon, est-ce que l'entreprise doit aller jusque-là? Peut-être pas. Mais en tout cas, d'inviter, de dire, ça ne se fera pas, ce management, ce style de direction des collaborateurs, sans un travail sur soi-même. Sachant que la responsabilité met en lumière qui vous êtes. Ça fait comme un effet miroir, un effet de loupe. Vous voyez, prenez bien conscience que vous vivez avec des personnes que vous n'avez pas choisies en travaillant dans n'importe quelle institution ou n'importe quel milieu. C'est des personnes peut-être que vous n'auriez surtout pas choisies. Hein, c'est le cas aussi de la vie religieuse, je vous rassure. C'est le même principe. C'est qu'on vit avec des personnes qu'on n'a pas choisies. Et c'est en même temps le signe extraordinaire de la vie religieuse. Et tout ça, tout ce monde-là, avec des nationalités différentes, des cultures, des milieux, des âges différents, bah, tout ce monde-là vit ensemble et plus ou moins en relativement bonne intelligence. Donc voilà. Donc c'est intéressant de... ça demande un vrai travail sur soi-même. Je voyais un jeune il n'y a pas si longtemps que ça. Il a un rapport difficile avec l'autorité. Et donc, il est souvent dans la provocation avec l'autorité. Et du coup, arrivé dans le monde professionnel, ça n'a pas loupé. On lui a fait... Il est un garçon qui est intelligent, qui a fait des bonnes études, etc. Mais on lui a fait remarquer. Il y a un côté provocateur. Il y a un côté, voire impertinent, dans ton rapport avec l'autorité. Et puis, en creusant, ben voilà, on voit bien que dans son rapport avec son propre père, il y a quelque chose qui est compliqué. Oui, donc c'est intéressant de voir ce style de manager. Si vous avez des difficultés dans la manière de gouverner, ou alors c'est une personne qui est d'une goujaterie impardonnable et qui, il y a des tarés partout. Hein, et c'est des personnes toxiques, il y en a aussi dans le monde professionnel, il y en a partout. Dites-vous, en quoi cette personne avec qui ça me coûte de travailler vient révéler en moi quelque chose. Et moi, j'ai expérimenté dans ma vie religieuse que le frère qui me coûtait le plus, c'est celui qui m'avait fait le plus avancer. Parce que nous allons, dans le monde professionnel, pas seulement avec les outils du management classique, là, bon, vous irez taper ça sur Internet, vous trouverez ça, tout ce que je viens de dire, vous le trouverez. Nous y allons avec la lumière de l'Évangile. Et c'est là où ça change la donne. C'est-à-dire que on se dit... Seigneur, qu'est-ce que tu me dis à travers peut-être ce conflit avec cette personne? Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est uniquement par mail, avec en mettant 15 personnes en copie, dont les chefs, du coup, on s'échange des mails, ça envoie, et puis l'ordinateur chauffe tellement les chauffe à blanc tellement les mails sont violents, tu vois? Donc bon, on peut pas vivre un truc comme ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, est-ce que je suis capable d'aller m'asseoir à côté de l'autre? Mais justement, c'est le rôle du manager de dire, bah, on voit qu'entre vous, c'est compliqué. Mais il y a des personnes avec qui ce n'est pas possible aussi. Je me rappelle un jeune pro, là, je m'occupe des jeunes pros à Compiègne. Bah, c'était tellement compliqué, lui, c'est vraiment une bonne patte, etc. Mais tellement compliqué avec sa collègue, qu'il est parti. Parce que cette personne-là n'était pas en capacité de changer. Donc, autre question que je me pose, et si l'autre est malveillant, comment je fais? Et ça, je ne l'ai pas vu traiter. Il y en a qui me montrent un revolver. Donc, si l'autre est malveillant, qu'est-ce que je fais? La question de la manipulation. Alors, je vais l'aborder de façon rapide, et ce sera mon dernier point, la question de la manipulation, j'ai proposé au bureau de Spi & Spi de faire en décembre, parce que j'interviens une conférence sur deux, un mois sur deux, quelque chose sur les manipulateurs, comment se les repérer et comment s'en prévenir. Parce que notre société est quand même regorge d'animaux de cette espèce. À quoi je vois la manipulation ? Parce que tout ce que je viens de dire, ça peut être complètement utilisé dans un mauvais sens, avec un mauvais esprit, avec un désir d'une emprise sur l'autre, avec le désir de jouer sur l'affectif. Peut-être, alors, premièrement, sortons de l'idéalisme et de la naïveté. Il y a des manipulateurs, j'allais dire, professionnels, dans le sens dont c'est la profession. On en rencontre tous les jours, des manipulateurs. Bon, vous allez dans une grande surface, vous êtes manipulé. Mais vous le savez. Vous savez qu'il y a un parcours. On voit très bien, là, je vois la grande surface tout près de l'abbaye. Tiens, j'ai vu, tiens, ils ont changé leur linéaire, ils ont changé leur truc, du coup, moi, j'observe, etc. Bon, dans les étages, etc., évidemment, à la bonne hauteur, on te mettra le produit avec la plus grande marge. Bon, on le sait. Bon, voilà, c'est leur métier. On ne va pas leur en vouloir, c'est leur métier. À nous de nous baisser, d'aller voir, voilà. Ça nous ramène à l'humilité. Et donc, du coup, voilà. Donc ça, mais il y a des manipulateurs relationnels, les manipulateurs professionnels, et il y a des manipulateurs relationnels. Quand l'autre commence à te culpabiliser, à vouloir aller au-delà, à avoir une emprise sur toi, et justement à aller au-delà au niveau de la partie personnelle, où te fait miroiter des choses. Je me souviens de ce jeune avocat, il travaille dans un cabinet, l'avocat Paris, il travaille comme des grands malades, etc. etc. Et le patron lui dit « Mais tu seras mon bras droit ». Bien sûr, il l'a foutu à la porte. Il n'a même pas eu le droit d'emporter ses dossiers. Il est sorti par l'escalier de service. Ça, c'est la manipulation. Vous voyez ? Donc, du coup, je pense que c'est important de dire ça, que la manipulation, la manipulation, vous la repérez quand quelqu'un est dans une démarche de culpabilisation, et puis faites-vous confiance à ce que vous ressentez. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose qui cloche dans cette manière d'agir ? Est-ce que le manipulateur, par exemple, sépare les gens ? Il y a les bons et puis il y a les méchants. Il y a ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. Oui, ça, c'est quelques critères. Mais en décembre, moi, je vous ferai un topo rien que là-dessus, parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Voilà un peu de ce que je voulais vous partager ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? Bien fort.
Oui, il y a trois questions qui me viennent. C'est la même question. Qui est engagé, qui est promu et qui est viré ?
Ah, qui est engagé, qui est promu, qui est viré ? C'est une question.
Pour en fait, comme on connaît un arbre, hein, c'est
oui.
Est-ce que c'est une bonne manière de détecter si l'arbre est réellement bienveillant ou si c'est juste un discours ?
Oui. En tout cas, qui est engagé, oui. Je pense que oui. Promu, pas toujours. Parce que ça peut être... Merci. Promu, c'est pas toujours parce qu'on peut promouvoir quelqu'un pour quelque part le mettre à la porte et puis ou le mettre dans un placard. Et puis bon, virer, il y a des personnes qui sont clairement incompétentes. Je dirais, est-ce que la personne peut grandir avec l'entreprise ? Est-ce que ceux qui le souhaitent, il y en a à un moment donné, ils ont fait le tour du job, le tour du métier, ils veulent changer de secteur, très bien. Est-ce que je peux grandir avec l'entreprise ? Est-ce que c'est une entreprise où je peux durer ? Je trouve que c'est... Est-ce que c'est une entreprise où il y a un peu les différentes pyramides d'âge représentées ? Ça me paraît peut-être plus un critère, disons, un peu peut-être éclairant, oui. Oui, il y avait une autre question dans. Oui. Des actionnaires, d'accord.
Le patron, comme vous disiez, ça vient en haut, c'est lui qui a pris l'initiative et qui a finalement
fait basculer l'actionnariat, c'est ça que c'est une.
Il a basculé l'actionnariat, ouais. Il n'en a pas parlé, et il leur en a parlé uniquement quand les chiffres étaient là.
D'accord, ok. Bon, ben, c'est un bon exemple, hein, donc vous avez entendu Harley Davidson, comme quoi, voilà. Ça mène à tout, et donc, du coup, à l'actionnariat bienveillant, et du coup, c'est sûr que s'il y a un patron qui y croit, ça fait changer, ça doit venir du haut, ça c'est absolument clair. Le poisson pourri par la tête, mais aussi se sauve par la tête, quelque part. Donc, d'autres questions ? Est-ce que vous avez peut-être des... Ah oui, pardon, oui. Ah, du vouvoiement et du tutoiement. Alors là, vouvoiement et tutoiement dans l'entreprise. Alors, par exemple, à la SNCF, dont on ne peut pas suspecter que le management soit trop stressé, mais bon, peut-être que oui, mais bon, je suis peut-être méchant, j'ai peut-être qu'il y a des cheminots dans la salle, mais en tout cas, les gens aiment bien faire leur carrière à la SNCF et durer à partir à la retraite. Le tutoiement est de rigueur. Et on tutoie le cheminot de base, comme le patron, tout le monde, c'est tout, on arrive, on tutoie tout le monde. Moi, je me méfie d'être trop affectif. J'aime bien le vous parce que ça permet de maintenir une distance. Maintenant, si vous avez travaillé avec des gens qui sont de votre âge, grosso modo, entre 25, 35 ou 30 et 40. Bon. Surtout, ce qui m'est difficile, c'est... Vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple que je pratique parce que vous avez en face de vous un manager, même si vous n'y croyez pas. Parce que nous avons des salariés dans notre communauté, des salariés laïcs, des cuisinières, des comptables, une personne qui s'occupe de la librairie. Et du coup, j'allais dire, c'est encore plus compliqué pour nous, et d'autant plus que j'ai eu à virer un cuisinier, celui qui est chef de cuisine, j'ai dû le virer parce qu'il était vraiment incompétent. Je pense que je ne tutoierai jamais les salariés. Il y a d'autres frères qui les tutoient. Moi, je n'embrasserai jamais, embrasser la bise, hein, jamais un salarié. Oui, non, vous avez l'esprit mal tourné. Mais surtout que c'est que des femmes. Donc, du coup, voilà. Jamais. Moi, je donne la main. Je trouve que ça laisse plus libre. C'est peut-être plus froid, mais ça laisse plus libre. Ça veut dire que si j'ai quelque chose à dire, je serai plus libre aussi, comme responsable du personnel, de ce personnel-là, de ces quatre personnes, je serai plus libre pour le dire. C'est un peu comme le papa copain, quoi. Le papa copain, voilà, bah du coup, quand il s'agit de mettre les limites, on n'est plus copain. Alors, l'enfant a du mal, mais pareil, celui qui a la responsabilité, il n'est pas là pour être copain. Il n'est pas appelé à être ton ami. Il est juste appelé à te faire grandir et de voir comment est-ce que tu peux grandir et être attentif, voilà. Par exemple, une chose que j'ai mise en place, c'est un compte horaire. Elles n'ont pas le statut de cadre, ces femmes-là, elles sont employées. Donc elles ont un horaire qu'elles respectent, etc. Mais j'ai mis un compte horaire en place. Ça veut dire quoi ? Un compte d'heure. C'est-à-dire qu'on peut travailler plus, on peut travailler... Ensuite, on peut être en négatif, qu'on peut être en positif. Du coup, si elles ont... Il y en a une, elle avait des enfants en bas âge quand elle est rentrée. Voilà, si un enfant malade dit « aujourd'hui, je ne viens pas », etc. Ben, du coup, ça fait moins sur la feuille. Mais tu te débrouilleras pour qu'il n'y ait pas moins 300 heures à la fin de l'année. Quoi, parce que là, ce sera un peu compliqué. Quoi. Ça veut dire que le travail n'aura pas été fait. Oui, mais du coup, mais pour revenir au vouvoiement, au tutoiement, c'est les cultures d'entreprise. L'avantage de travailler en anglais, c'est que c'est pareil, donc ça résout le problème. Mais je ne suis pas toujours à l'aise parce que, surtout avec la hiérarchie, je trouve qu'il n'y a pas assez de distance. Quoi. Et c'est plus... voilà. C'est pas que, quelle est un peu vos expériences dans vos entreprises, dans vos lieux de travail ? Par exemple, je ne sais pas, une infirmière, je sais qu'il y en a qui sont infirmières, est-ce qu'elle tutoie les médecins ? Est-ce qu'elle tutoie les chefs de service ? Est-ce que... Mais par exemple, se tutoyer entre infirmières, ça ne me choque pas. C'est très commun, et puis même avec les aides-soignantes, voilà, c'est assez facile. C'est... Maintenant, tutoyer les médecins, tutoyer le chef de service, etc. D'autres questions ? Oui ? Oui. Oui. Complètement. Oui. 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 Oui, c'est vrai qu'un management malveillant, malgré lui, j'allais dire, aide la personne à se poser des questions. Quels sont ses fondamentaux ? Et c'est vrai, moi je vois, par exemple, pour dire les choses, bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes de culture catholique, etc., vous êtes baptisés, etc., mais je vois beaucoup, c'est une fois qu'ils remettent, bon, ils ont tous les stempels, voilà, de baptême, de communion, de confirmation, ils ont, bon, le scoutisme, etc. Mais en vrai, dans la vie estudiantine, ce n'est pas forcément la vie spirituelle la priorité. Donc, moi, j'étais aumônier étudiant, je peux en témoigner. En revanche, quand ils arrivent dans le monde professionnel, ces gens de formation et d'éducation catholique, de background catholique, bah, ils ouvrent les yeux. Quoi. Ils disent, il y a des choses... Et du coup, je vois des gens, et vous en êtes le témoin ce soir, qui, peut-être... Voilà, n'avait cessé la pratique, avait mis sur off, etc. Mais en contact avec le monde professionnel qui vient choquer leurs valeurs, ils s'interrogent, quels sont mes fondamentaux ? C'est quoi mes fondamentaux ? Et si on me demande de mentir, par exemple ? Et si on me demande de tricher ? Est-ce que j'irai jusqu'où ? De fait, il y a toute de votre génération, tous les jeunes professionnels... Je trouve qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, bon, de ceux qui ont eu une éducation catholique, encore une fois, et qui reviennent et qui voilà, s'interrogent. Et donc, parce qu'ils ont été confrontés à un management malveillant. Oui. Oui. Bah, chez les militaires comme chez les autres, c'est pas parce qu'on est militaire qu'on est malveillant. Je pense que c'est juste... l'avantage des militaires, c'est que chacun a un poste. C'est-à-dire, quelque part, on n'a pas. La fiche de poste est très claire. Et il y a des grades. Et il ne peut pas y avoir de confusion. Le sergent ne va pas faire ce que fait le commandant. Ça, c'est juste impossible. Maintenant, plus vous grandissez dans la hiérarchie militaire, plus c'est la personne humaine qui est sollicitée. Hein, pourquoi il y a eu tout ce mouvement ? Tiens, prenez le chef d'état-major, là, De Villiers, là. Pourquoi, moi, j'ai trouvé lamentable la manière dont il était mis à pied. Bon, je suis très bien changé de chef d'état-major, mais l'humilier en public, c'est lamentable. Mais pourquoi il y a eu une haie d'honneur quand il est parti Parce que c'est sa personne. Justement, ils avaient enlevé les képis, etc. C'est sa personne. Ils trouvaient, et il y en a un, parce que beaucoup de mon ministère s'est préparé au mariage, etc. Je préparais des militaires. Ils disent, c'est vraiment le meilleur d'entre nous. Quoi. Et ils n'avaient pas la peine à le reconnaître. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment la personne. La compétence, bon, on suppose qu'elle est au rendez-vous, à général 5 étoiles. Bon. Mais du coup, je crois que si on aime les personnes dont on a la charge, si on, et comme chrétien, on porte dans la, si ça se sent quelqu'un qui veut te faire avancer. Comme aussi ça se sent quelqu'un qui veut te faire tomber et qui va dire du mal devant le supérieur hiérarchique pour que tu te casses la gueule. Quoi. Ça existe aussi. Hein. Que ce soit un manager, ça peut être un collègue au même niveau de grade, parce qu'il veut avoir le grade supérieur, donc c'est bien voir. Mais justement, quelqu'un qui vient me démonter un de ses collègues de même niveau, etc., moi, comme chef d'unité, comme chef de régiment, etc., je suis tout de suite en alerte. Je me dis, ce type-là, c'est un manipulateur. Je ne vais certainement pas lui donner une promotion. Parce que, ensuite, c'est moi qui vais démonter, quoi. C'est probable. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas de milieu où on puisse dire, bon oui, peut-être la grande criminalité, c'est peut-être difficile d'être manager, même bienveillant, mais bon, mais il n'y a pas de milieu où on puisse dire, c'est pas possible d'aimer les gens. Tout simplement. Je me rappelle ce témoignage de cadre, justement, qui est le cadre chez Veolia et qui a grandi, et il a dit, à un moment donné, j'ai décidé d'aimer les collaborateurs qui étaient avec moi, et dans mes collaborateurs, c'était la partie nettoyage de Veolia, etc. C'est vraiment, au niveau social, c'est des gens sans formation, parfois illettrés, qui sont dans le nettoyage industriel, etc. Mais j'ai décidé de les aimer. Et du coup, il a progressé. Parce qu'une personne comme ça, on la repère. On la repère dans le management, le top management repère des... Quand c'est bien, quand ça fonctionne de façon vertueuse. On repère ceux qui ont une attitude bienveillante par rapport... Et en même temps, qui sont compétents. C'est allier les deux. Soyez très compétents. Devenez les meilleurs. Et vous pourrez faire beaucoup de bien. Ayez une belle ambition. Et là encore, je trouve, comme catholique, parfois on se sous-estime, on s'auto-inhibe, en disant non, l'ambition, faut pas que je me vante parce que voilà, ça manque d'humilité. Et puis la Vierge Marie, elle était humble, etc. Bon, bah oui. Oui, bon, bah, la Vierge Marie, c'était peut-être un autre cas de figure. Bon, j'ai un grand respect pour la très sainte Vierge, bien sûr, mais ayez une vraie ambition. Et je pense que des personnes comme vous, formées avec le background que vous avez, spirituel, humain, beaucoup d'entre vous ont fait du scoutisme, etc. Bon. C'est vraiment... Il faut que vous soyez au top, quoi. Il faut que vous soyez au top. Dans le top 10, visez d'être dans le top 10 de vos institutions, de votre... Mais parce qu'il y a du bien à faire. D'autres questions? Oui, oui, il y a un oui par là-bas. Oui. Oui, il y a des caractères différents, il y a des managements différents, oui. Alors, on a dit bienveillant et malveillant, mais à l'intérieur de ça, il y a toute une gamme. Et puis, malveillant pour l'un peut être aussi, non, et s'en accommoder très bien. Par exemple, une personne qui serait très en demande de félicitations, et l'autre est plutôt froid, ne félicite que très peu, ben voilà, trouvera, peut-être aura la difficulté, alors que celui qui n'est pas en demande... c'est pas son langage de l'amour, entre guillemets, bah, du coup, il n'aura pas de difficulté. Mais il y a, par exemple, un management participatif, il y a un management directif. Les styles de management sont assez, je dis, autant que pratiquement que de personnes. Il y a des grands styles. Il y a des managements créatifs, du coup, voilà, qui provoquent à la créativité. Mais c'est important, c'est d'abord... Je veux dire, celui qui est en responsabilité, qui se pose la question, qu'est-ce qui m'habite intérieurement? Qu'est-ce que je peux donner là où je suis? Je veux dire, comme chrétien encore plus. Qu'est-ce que... Voilà. Et peut-être qu'il y a des choses que je ne pourrais pas donner. Des ambiances dans lesquelles je ne pourrais pas être. Je pense plutôt comme ça, parce que c'est plutôt se tourner... Vous trouverez les styles de management, tapez sur Internet, googlisez ça, vous trouverez tous les styles de management. Mais bon, vous repérez peut-être plus ou moins le vôtre, mais d'avoir aussi l'écho des autres. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle faire un 360. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est faire un 360. C'est plutôt les entreprises anglo-saxonnes qui font l'évaluation, c'est toutes les personnes qui sont autour de moi, disent comment elles me voient. Et ça, à tous les niveaux. Que ce soit du top management jusqu'aux dernières entrées, etc. Je trouve ça intéressant de dire comment... Et à travers ça, ce vers quoi je suis appelé. Une dernière question, peut-être. Oui, il y avait une autre... Oui, oui.
On parlait de choix d'organisation. Aujourd'hui, il y a quelques entreprises qui remettent en question la notion d'hierarchie.
Oui.
Vous avez l'air très attaché à l'hierarchie.
Oui. Je suis perplexe, c'est peut-être mon âge, j'en sais rien, mais bon, je suis perplexe sur l'absence de hiérarchie, parce que l'absence de hiérarchie, c'est l'absence de clarté. Or, je trouve qu'une hiérarchie n'est pas forcément, ne s'oppose pas à une créativité et à une. L'autorité, et c'est un service. Pour le chrétien, c'est un service. C'est la question de l'autorité. Et donc, la manière d'exercer l'autorité. Je crois qu'une structure sans autorité, moi, je ne la vois pas. Ou tôt ou tard, il y aura des gens qui se placeront et qui se poseront eux-mêmes comme responsables alors qu'on ne les a pas nommés à la place. Le fait ça donne une clarté et ça empêche justement les manipulations d'avoir un organigramme clair dans son service. Qui fait quoi? Qui est responsable de quoi? Fiche de poste claire. Parce que si on rentre dans un truc, oui, mais tu sais, on est tous avec tout le monde, puis tu me passes. Là. Je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est peut-être moi, mais parce que derrière ça, ça sent la manipulation à plein nez. Moi, je vois ça. Question, c'est bon ?